Dernière chronique anticapitaliste de la claque cette semaine, la dernière de cette saison, la dernière de l'année. Donc, une série de chroniques où est-ce qu'on est passé à travers toutes sortes de thèmes, qu'on parle de l'insécurité, qu'on parle de la dette, qu'on parle d'éducation, d'endoctrinement. La formule, c'est un abécédaire, donc une lettre par mois, un mot. Ce mois-ci, on s'attaque au S comme dans syndicat, comme dans syndicalisme, avec une certaine critique d'un certain syndicalisme pour en parler. J'ai Paul qui est avec moi, qui était là, qui est venu quelques fois déjà avec nous pour nous parler notamment de surveillance et puis aussi de violence policière. Bonjour Paul.
Bonjour Simon.
Donc, syndicat, un sujet d'actualité à la veille du 1er mai, certainement. Une critique du syndicalisme, je me le disais d'entrée de jeu. Donc, évidemment, l'analyse anticapitaliste appliquée à la lecture de ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu syndical, c'est une critique qui est quand même assez virulente. Comment ça s'articule, cette lecture-là anticapitaliste du syndicalisme contemporain?
Bien, à la base, c'est pas tant une critique du syndicalisme qu'une critique des structures actuelles des syndicats. Ben, tu sais, je veux dire, on le sait, depuis le début du mouvement syndical, il y a eu des critiques des syndicats qui ont été faites. Par exemple, dans le syndicalisme de combat qui a été pris par Jean-Marc Piotte, il dénonçait déjà le fait qu'il y avait trois centrales syndicales puis qu'il devrait en avoir juste une, parce que ça causait des campagnes de maraudage notamment, parce que ça causait différents problèmes. Alors, c'est même pas des critiques qui sont faites par le milieu anticapitaliste, c'est des critiques de gens qui étaient syndiqués, des travailleurs, travailleuses, qui sont à l'intérieur des structures, qui trouvent que le contexte, parce que dans le fond, le syndicalisme, c'est bien, tu sais, je veux dire, les travailleurs, travailleuses devraient avoir le contrôle sur leurs moyens de travail le plus possible. C'est une perspective de lutte qui est intéressante, qui peut être vraiment transformatrice pour la société, puis qui est nécessaire, puis qui a permis d'avoir énormément d'acquis pour les travailleurs, travailleuses de partout. Toutefois, si jamais on observe le syndicalisme concret, quand on fait une lecture, par exemple, du monde ouvrier ou donc de perspective CSN, on peut voir qu'il y a un discours sous-jacent aux structures syndicales présentement. C'est un discours qui est basé autour de luttes qui sont faites et puis des campagnes qui sont faites par la CSN puis par la FDQ, des campagnes qui sont basées autour de revendications qui sont faites auprès des gouvernements. Si jamais vous lisez, par exemple, les différents textes économiques, ils vont dire « Ah ben oui, il y a des solutions, il faut taxer plus les banques. Ah ben oui, il y a des solutions, il faut taxer d'autres groupes. L'austérité, ça marche pas, on le sait. » Ces critiques-là, c'est des critiques qui sont intéressantes. Ben, on est d'accord avec ça. Je veux dire, oui, il faudrait taxer les banques. Oui, il faudrait taxer les entreprises privées. Je suis parfaitement d'accord. Sauf que dans un contexte où depuis la moitié des années 80, on est dans une dynamique où il n'y a aucune taxation qui sont faites, que les coupures qui sont faites au gouvernement visent à donner plus de contrôle aux entreprises. Par exemple, qu'on se rappelle le premier mandat du gouvernement libéral, c'est-à-dire le gouvernement Charest en 2003. C'est quand même un régime qui était drastique. Il y a eu des modifications, entre autres, à l'article 45 du Code du travail, qui sont des acquis des travailleurs, travailleuses, qu'il y a eu une super de grosse mobilisation contre, mais concrètement, ça l'a continué depuis, puis ça continue depuis presque 30 ans. Alors, on se demande pourquoi les syndicats, ils disent, encore une fois, puis tu sais, faut quand même être clair par rapport à ça, ces reculs-là ont été faits à temps sous le règne du PQ que sous le règne, du gouvernement libéral. Alors, tu sais, on voit souvent les leaders syndicaux qui représentent les différentes campagnes. On le sait, dans leurs différentes campagnes, par exemple, ils font des grosses têtes de Couillard, ils font des grosses têtes de Charest. Et puis, quand il y avait des luttes un peu contre Pauline Marois, ben, tu sais, il y avait une grosse tête de Pauline Marois. Alors, ils essaient de quand même centrer les luttes sur des individus particuliers pour faire un objet de mobilisation précis. Qui est encore une fois un symbole, tu sais, qu'il faut renverser le gouvernement en place pour mettre un meilleur gouvernement. Mais on le sait, il n'y a pas d'autre meilleur gouvernement. Alors, quand on voit des choses comme ça, on se dit pourquoi? Moi, j'ai un peu une piste de solution par rapport à ça, parce que dans le fond, on le sait, tu sais, je veux dire, les gouvernements, quand il y a une contrainte forte, eh bien, ils font des revendications qui aident la population, même quand il n'y a pas de discours élaborer par rapport à ça. Par exemple, en France, dans les émeutes des banlieues en 2005, ce qui s'est produit, c'est que il y avait des gens qui brûlaient des voitures dans les banlieues parce qu'ils étaient insatisfaits, qui étaient insatisfaits de la gestion des banlieues, notamment. Il y avait des gens qui sont morts, poursuivis par la police. Alors, il y a des gens qui se sont mis à brûler des voitures, et puis il y avait de plus en plus de voitures qui brûlaient. Le gouvernement a essayé de calmer le jeu, tout simplement en mettant des mesures qui visent à donner plus de services sociaux pour les gens qui habitent en banlieue. Alors, ils n'ont pas besoin d'avoir de revendications claires. Le gouvernement le sait, il nous crosse, c'est ça qu'il fait. Il comprend son rôle, mais il refuse de donner ces affaires-là, sauf s'il y a une contrainte, puis sauf s'il est forcé à le faire. Alors, on se demande pourquoi les syndicats nous disent « Ah, mais là, voter du bon côté, ça va bien aller. » Alors, c'est ça, une théorie générale, puis une critique générale pour la raison que les syndicats font ça, on la retrouve en regardant d'autres structures syndicales. Par exemple, le syndicalisme qui est présent dans le milieu étudiant. Qu'est-ce qui s'est passé dans le milieu étudiant? C'est quand même intéressant ce qui s'est passé dans les 10-15 dernières années dans le milieu étudiant. En 2000, par exemple, il y a eu la formation de l'AC. C'est l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Elle a été formée, entre autres, pour défendre le syndicalisme de combat. Le syndicalisme de combat, c'est quoi? C'est simplement de faire une information à la base, une information économique, une information politique, afin que les gens soient conscients de leurs conditions, afin que ces gens-là, démocratiquement, décident d'eux-mêmes de prendre action pour sortir de leurs conditions d'oppression qui est causée par un système économique injuste. Alors, c'est ça qui a été fait. Puis c'est quoi qu'ils ont fait comme discours? Puis c'est quel discours qui tenait? Bien, premièrement, c'est un discours qui donnait des perspectives par rapport à la situation interne des étudiants-étudiantes. C'est quoi la réalité des étudiants étrangers? C'est quoi la réalité des mères monoparentales dans le milieu étudiant? C'est quoi la réalité, des différents individus? Pourquoi les réformes, pourquoi les réformes injustes... ils touchent plus les femmes, entre autres, ils touchent plus les étudiants étrangers. À partir d'une compréhension, ça n'a pas été fait seulement de ce niveau-là, ça a été aussi fait dans une perspective de « OK, il faut s'organiser, il faut prendre action. » Et puis, comment est-ce que chacun et chacune peut lutter et puis prendre action pour essayer de sortir de là? Ce qui est un discours qui est totalement en clivage avec le discours des syndicats.
On parle de syndicalisme, on parle de travail, on est à la veille de la Journée internationale des travailleurs et travailleuses, la CLAC qui appelle, comme à l'habitude, à une manifestation anticapitaliste pour cette journée-là. Cette manifestation qui s'est traditionnellement, dont les syndicats se sont traditionnellement un peu dissociés en raison du caractère peut-être trop radical qui est véhiculé par cette manifestation-là, ce qui illustre un peu ce qu'on disait, que les syndicats, finalement, jouent plus un rôle de médiateur dans les relations de travail que vraiment un rôle de transformation sociale. Donc là, dans le contexte du 1er mai, ça s'illustre assez fortement, cette scission-là entre un syndicalisme de combat, comme celui qui est proposé par l'AC, celui qui est mis de l'avant par la CLAC aussi, d'une certaine manière, puis des gens comme l'IWW, puis d'un autre côté, un syndicalisme plus réformiste qui est mis de l'avant par les grandes centrales syndicales.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les syndicats, à la base, ils sont prêts à faire de l'action. Par exemple, le C3S Laval, ils ont déjà confirmé qu'ils allaient probablement être à la manifestation anticapitaliste de la CLAC. Le conseil central de la FTQ du Montréal, de la CSN du Montréal métropolitain va être à la manifestation de la CLAC. Ils ont déjà dit, genre, qu'ils allaient envoyer des gens. Les syndiqués, les travailleurs, travailleuses, les gens qui font de la mobilisation sur le terrain, ils sont impliqués, ils sont prêts à faire du travail. Le problème, c'est vraiment un problème au central, que les organisations, la structure des organisations fait en sorte qu'ils n'ont pas le choix d'entrer dans une dynamique où ce qui peuvent pas mobiliser les travailleurs-travailleuses, parce que s'il y a une mobilisation de la base des travailleurs-travailleuses, eh bien, concrètement, ils vont se rendre compte que leur exécutif, c'est 7-8 personnes. Et puis que les travailleurs-travailleuses, ils sont beaucoup plus. Puis si jamais ils se mettent tout ensemble pour prendre la rue, ils sont beaucoup plus, ils sont tout aussi efficaces, dans le fond. Tu sais, tu peux prendre tes collègues dans une cuisine et puis dire « OK, on travaille ensemble, puis on va aller prendre la rue », ils sont tout aussi efficaces que cette personne dans les bureaux de la FTQ. Alors, dans une dynamique comme ça, c'est clair que les syndicats peuvent pas se mettre à faire une propagande direct à la base puis leur dire « soulevez-vous », parce que évidemment ces gens-là vont perdre leur emploi, qui sont bien payés, tu sais, qui s'attendent à ça, puis comme on le sait, tu sais, je veux dire, quand on vieillit un peu, ou ben donc, même quand on est jeune, des fois, tu sais, je veux dire, on se dit « ah ben là, je vais pas perdre un chèque de paye pour aller en grève », tu sais. Alors, ces gens-là, ils veulent pas miner leur futur, puis ils veulent donc pas une mobilisation de la base. Et puis, c'est malheureusement ces dynamiques-là qui pourraient expliquer la présence d'un discours, comme on le voit dans les pages de perspective CSN ou donc du monde ouvrier, et puis comme c'est manifesté dans les rues par une personnification des luttes, par une simplification des enjeux. Mais moi, je pense que les travailleurs, travailleuses, ils doivent faire comme le mouvement étudiant, parce qu'avant l'AC, il y avait le mouvement pour démocratique étudiant.
Le mouvement pour le droit à l'éducation.
Exactement. Désolé, je sais pas tout. Mais oui, exactement. Le mouvement pour le droit à l'éducation, ce qui est vraiment drôle, c'est que c'était vraiment une gang de punk qui passait des journaux. On sait notamment, genre, dans l'histoire du mouvement étudiant, la grève de 96 a été lancée par le comité journal. Fait que là, le comité journal était tellement pas organisé avec le reste du monde qui était comme juste « oh, on fait la grève ». Et puis, le fait est que, tu sais, ça a juste été le comité journal qui a déclenché la grève plus que le mouvement pour le droit à l'éducation. Mais c'est quoi qui était la corde qui tenait le mouvement pour le droit à l'éducation? C'était une critique de la FEC et de la FEUC qui était essentiellement une organisation décentralisée qui regroupait plein de monde et puis qui avait juste une critique très forte des structures syndicales. Alors, présentement, pour le 1er mai, on le voit, tu sais, je veux dire, il y a les profs contre la hausse, il y a les profs contre l'austérité, qui sont devenus les profs contre l'austérité, on voit les infirmières contre l'austérité, on voit plein d'organisations de la base qui sont en train de développer un discours contre l'austérité, qui sont en train de développer des mouvements de lutte. Nous autres, à la CLAQ, tout ce qu'on espère, c'est que pas non seulement au 1er mai, tu sais, dans le 1er mai, bon, on s'entend, là, tu sais, il se passe bien des belles choses, mais après ça, il faut voir vraiment plus loin que ça et puis se demander comment est-ce qu'on va faire pour avoir des structures qui vont être capables de critiquer les exécutifs syndicaux dans un contexte, et puis on voit déjà les semences de tout ça qui existent dans la forme de différentes organisations d'organisations de travailleurs, travailleuses qui sont à la base, qui sont décentralisées, que c'est des gens qui viennent de partout. Ça, pour nous, ben en tout cas pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bon signe, parce que si jamais il commence à avoir une critique à la base qui vient des travailleurs, travailleuses, parce que nous autres, on s'entend, moi je travaille dans une coop de travail, là, tu sais, je veux dire, on a beau critiquer les syndicats, ça donne pas grand-chose. Mais concrètement, si jamais il y a une critique qui vient de la base, si jamais il y a une critique qui vient de la base, c'est là qu'il va y avoir un vraiment changement social. Mais par contre, c'est important aussi de manifester. Oui, tout simplement, la manifestation anticapitaliste du 1er mai, demain, elle a lieu à 7h. Il y a 3 points de départ. Il y en a un au coin McGill College et de Maisonneuve. Il y en a un au coin McGill College et Sainte-Catherine. Et il y en a un au Square Phillips. Les 3 départs sont à 17h. À 19h. Et puis, c'est ça. Vous êtes tous cordialement invités.
Pour un syndicalisme de combat.
Oui, absolument.
Alors voilà, c'était la chronique l'abécédaire anticapitaliste de la CLAQ qui termine cette saison. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Simon, pour l'invitation. C'était vraiment gentil.